dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream.
My definition, my definition, my definition is this, my definition, my definition, my definition, my definition is this.
I have a dream.
Bonjour escapadiens, escapadiennes, je suis heureuse de vous retrouver dans le royaume de l'intermédiaire, donc toujours en compagnie de Pascal et de la belle équipe de Radio Escapade. Voilà, nous sommes donc dans le courant du mois de novembre, nous sommes pratiquement à l'avant-dernier mois de l'année, le 11e, un chiffre vraiment très 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 symbolique dans la symbole du satanisme. Bien sûr, le sujet n'a toujours pas changé. Je vous parle encore du diable, du malin, de Méphisto, de Satan, enfin tous les mots que vous voudrez. Et vous le savez, il n'est pas en reste, il est très 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 sollicité. Alors, est-ce que le diable serait-il de retour? Il n'y a pas de retour puisqu'il a toujours été là. Mais rappelons les procès en sorcellerie du 15e, 16e et 17e siècle, qui sont des périodes de la Renaissance et non du Moyen-Âge. Les messes noires célébrées à la cour de Louis XIV ou la référence à Satan chez les romantiques ou au 19e siècle avec Rimbaud, comme je vous l'avais précédemment dit, dans La raison et la saison de l'enfer. C'est au 20e siècle que des groupes sataniques voit le jour. Il compterait aujourd'hui environ 5000 adeptes à travers le monde, dans la moitié en Europe. Les plus connus de l'Église de Satan, créée en 1966, c'est une date qui doit leur plaire, une année du moins qui doit leur plaire, ou le Temple de Seth, né en 1974, ne sont pas présents en France. Mais à la différence des siècles passés, c'est plutôt à un satanisme dit « sauvage » qu'il faut raccrocher les manifestations qui défraient aujourd'hui la chronique « profanation de sépultures » ou « graffiti diabolique ». Des jeux de rôle mis en scène, réels, d'histoires fantastiques, et des mouvements musicaux comme le black metal ou le thrash metal rassemblent de nombreux jeunes en quête de sensations fortes. Citons des groupes comme Sepultura ou Marilyn Manson ou Decided ou les Français de Gothic Island, c'est du courant black metal que se réclamaient les adolescents responsables de la profanation du cimetière de Toulon et le meurtrier d'un prêtre alsacien. De 3000 à 4000 jeunes seraient en France adeptes de ces musiques. Mais elles ne sont pas responsables de tous les maux de la terre, bien entendu. Des paroles exaltant l'échec de la rédemption, quelques voix s'élèvent inquiètes de l'influence de ces modes sur la jeune génération. C'est le cas par exemple de prêtre Benoît Domergue, de 46 ans, curé Saint-Cyr-sur-Gironde et théologien, qui s'intéresse au phénomène néo-gothique. Si la fascination pour le diable a toujours existé, rappelle-t-il, elle touche aujourd'hui les plus jeunes, 15-20 ans. Les messages véhiculés utilisent parfois des passages soi-disant de la Bible exaltant la mort, en mettant de côté l'espérance. Selon le prêtre et certains autres, ces incitations seraient suffisantes pour éveiller la curiosité de certains jeunes et les pousser à aller un petit peu plus loin. Mais c'est plutôt une fascination de ce qu'on appellerait un petit peu l'interdit, ça a toujours existé dans l'esprit de l'humain. Des jeunes en recherche de sensations fortes, n'est-ce pas ? Monsieur Domergue fonde son opinion surtout sur les expériences du terrain. Il assiste fréquemment à des concerts comme celui de Marilyn Manson, qui a donné devant 10 000 jeunes en janvier 2001 au Zénith de Paris. Les jeunes connaissent les paroles des chansons par cœur, elles exaltent l'échec et l'attaque de la foi. Les disques de l'idole provocatrice, qui n'hésite pas sur scène à brûler d'immenses croix, arborent des titres tels que « L'Antéchrist Superstar ». Et Domergue affirme célébrer de plus en plus souvent des obsèques de jeunes adeptes de ce genre de musique ou encore de jeux de rôle, et qui pour la plupart, des fois, ça arrive, puissent donner une finalité un peu macabre et bien triste dans la famille. Serait-ce la manifestation du mal-être ? Aucune raison cependant de céder à la panique face à un prétendu essor de satanisme. De nombreuses profanations de tombes ont été plutôt commises par des jeunes qui étaient plus sous l'emprise de l'alcool ou de l'ennui que du diable. La plupart des sociologues ou psychologues s'accordent pour analyser les faits divers provoquant comme la simple manifestation d'un mal-être de la jeunesse. Michel Fies, sociologue, chercheur en CNRS, confirme « Les jeunes garçons et filles sont attirés par tout ce qui tourne autour de l'horreur. Cela correspond d'abord à un besoin d'émotion. On veut vérifier à chaque instant qu'on est encore en vie et on le reconnaît en vibrant. Et puis cela permet de s'évader d'une société terriblement quotidienne et triste. » Dans les fictions favorites de la jeunesse, deux scénarios différents peuvent alors, selon le sociologue, s'élaborer. Soit le diable est opposé à une force bénéfique, dans un contexte très moral et barbant, c'est le cas dans le film de la guerre des étoiles, où l'empire du bien s'oppose à celui du mal. Seconde situation, le satanisme seul est proposé, dans ce cas des barrières peuvent être franchies, menant des situations un peu critiques. Le sociologue rappelle aussi que dans un contexte de crise des religions, la référence à Satan est plus fréquente. Les grandes religions ne sont plus en premier plan. Les gens ont pourtant un souci de retrouver une forme de foi ou de spiritualité. Ils peuvent se raccrocher alors à Satan. Mais dans la plupart des cas, affirme Michel Fies, la mode vestimentaire ou musicale est avant tout un souci de distinction. C'est une fierté de porter des signes distinctifs que personne d'autre n'arbore. On a l'impression d'appartenir à une tribu. Mais alors, cette tribu serait-elle satanique ? Non, n'allons pas si loin. En attendant, nous allons faire une petite courte pause avec Monsieur Earthtones avec Open Season. Thank you. version instrumentale de Open Scissor de Herve Tones. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire et qui parle donc de ce retour au satanisme ou toujours l'existence du satanisme. Nous avons aujourd'hui des groupes néo-sataniques. Chez les théologiens, pas d'angoisse non plus. Le professeur Dominique Sébelot, dominicain, auteur d'un livre sur le diable, reconnaît l'existence de groupes néo-satanistes, organisations groupusculaires, parfois éphémères. Mais les relents satanistes qu'on rencontre aujourd'hui sur les bribes d'un folklore épuisé n'a plus aucun contenu. Si le diable a proliféré dans le christianisme populaire, il est aujourd'hui déchristianisé. Paradoxe, n'est-ce pas? Ces nouveaux courants se mélangent dans un salmigondi de crédulité à des néo-religiosités où les gens se croient d'abord l'objet de forces négatives. Cependant, certains groupes néo-satanistes peuvent s'adonner, il est vrai, à des profanations, ou à des suicides, ou à des crimes rituels, d'autres véhicules, des relents de nazisme. Pourtant, il affirme que Satan n'a pas grand-chose à voir avec tout cela. C'est un peu trop rapide de qualifier certains crimes de diaboliques. La responsabilité humaine y est tout de même engagée, non? Donc il est trop facile de tout remettre entre les mains du diable, n'est-ce pas? Il faut un peu être responsable de ses actes de temps en temps. Mais on peut des fois se poser la question, est-ce que le mal peut-il s'incarner en une personne? Voilà la question. Devant les horreurs commises par exemple par des tueurs comme Michel Fourniret ou Xavier Dupont de Ligonnès, certains se demandent si le mal ne s'incarne pas dans ces personnes-là. Mais ça n'excuse pas tout quand même. Vous avez le professeur Jean-Pascal Duloisy, exorciste du diocèse de Paris, explique comment le mal procède pour s'aliéner le cœur des hommes. Question de Sophie Villeneuve auprès de Monsieur Duloisy. Le démon, qui est, dit le catéchisme, un être spirituel, a-t-il la capacité de prendre la chair? Le démon, répond-il Monsieur Duloisy, le démon est un ange, peut-il s'incarner? C'est-à-dire exister sous nos yeux? Le mal est une intelligence, une force, un pur esprit. Quand il s'incarne en une personne, c'est le cœur de la personne qui l'habite. De manière insidieuse, le mal n'est pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. C'est à chacun de bien faire attention à ne pas se laisser entrer dans son cœur la violence, le meurtre, l'égoïsme, la jalousie, la méchanceté. Comme le dit saint Paul, il faut veiller à son cœur. Le mal peut-il aussi entrer non seulement dans le cœur, mais aussi dans le corps? Réponse. Il va de soi que le cœur arme la main. La volonté s'exprime à travers tout le corps. L'œil se plisse, la bouche ricane devant le malheur des autres. Et le mal prend toute la personne. Oui, on peut devenir un Caucase de démons. On peut peut-être coopérateur actif du mal en semant la mort, le mensonge, la division, car le mot « diable » veut dire « division ». Quant à la question de la possession d'une personne qui émergerait une telle violence, donnerait abri à une personne démoniaque en elle qui aurait pris toute sa liberté, on peut aliéner sa liberté, aveugler, enténébrer, à tel point qu'on devient satanique. Certains dictateurs ont détruit des peuples pour satisfaire leur appétit de pouvoir. Le démon est un charmeur. Comme certaines personnes qui vous flattent et vous engluent de compliments, il affiche un beau sourire de façade, serre la main, tout le monde connaît son nom. Il vous propose toujours le meilleur. Personne ne devient mauvais pour le mal en soi. On choisit toujours le mal sous couvert du bien. N'oubliez jamais cette phrase, je l'ai souvent répétée, je la répéterai encore. L'enfer est pavé toujours de bonnes intentions. N'oubliez jamais ce dicton. Bois encore un verre d'alcool, cela te réchauffera. Va t'amuser avec ta voisine, de toute façon ta femme t'oublie. Il y a plein de choses et de prétextes qui sont bonnes à faire et que l'on pense toujours avec de bonnes raisons. Et qui justifie cependant un acte mauvais. Le démon paraît sympathique, mais il n'a pas de cœur qui bat. ni aucune humanité. C'est un être qui fait ce qu'il veut à n'importe quel prix. Il est capable de tout détruire. La possession n'est pas simplement un événement qui vous tombe dessus, c'est un cheminement qui s'accomplit à mesure qu'on laisse son cœur dans l'obscurité et dans le mensonge. Il faut donc purifier son cœur. Il ne faut pas avoir peur de faire de bonnes actions et surtout de se remettre en question. Mais tout de même, tout le monde n'est pas au service du mal comme Michel Fourniret. Michel Fourniret, il a menti, il a trompé son monde, il a entraîné avec lui certaines personnes qui ont joué son jeu, y compris dans sa propre famille. Être complice de telle fausseté, c'est être emporté soi-même dans le torrent qu'on a laissé couler. Oui, mais vous avez l'air de dire que le mal est terriblement tentateur. L'homme ne peut pas choisir le mal pour le mal car il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est fait fondamentalement pour la joie, le bonheur et la paix. Il est estampillé pour le ciel. Le démon doit donc lui promettre des paradis artificiels pour pouvoir le piéger, car on ne peut piéger l'homme que par le paradis réel et pas fantasque. En lui proposant ce qu'il y a de plus beau ou en le frustrant. Le mal passe beaucoup par la frustration. Je voudrais pouvoir m'acheter des chaussures de grande marque, mais je ne peux pas, par exemple. Le démon a 1000 tours dans son sac, il joue de tous les appétits humains. Regardez, comme beaucoup de fois, la pratique dogmatique nous interdit beaucoup de choses. Et plus on nous interdit, plus on nous frustre, plus on la déteste. Mais comme le diable nous séduit, pas en disant « mais si, tu peux le faire, ça, tu peux le faire », c'est un signe de liberté. Il est malin. On attend souvent aujourd'hui cette petite phrase « fais-toi plaisir ». Peut-elle entraîner des comportements mauvais quand on se fait plaisir ? Cette phrase est un mensonge, car on ne peut pas être heureux en étant seul dans le plaisir. Un vrai plaisir est toujours partagé, on le sait, mais il n'est pas obligatoirement sexuel. À travers les siècles, des grands amours se sont écrits sans sexe, et c'était des amours très forts, très puissants. Un plaisir solitaire est un narcissisme qui s'auto-engraisse et qui est finalement mortifère. Attention, le mal ne peut pas prendre pied en vous que si vous le laissez la porte ouverte. On ne peut rien faire sans une foi forte, une espérance forte, une charité forte. Ainsi, le mal ne passe pas. Si vous combattez tout cela, sans obligation de croyance en Dieu, mais de croyance en vous et en bien. Concrètement, que peut-on faire ? D'abord, il faut avoir une idée sûre. Sûre sur une entité remarquable. Si vous n'avez pas envie de l'appeler Dieu, appelez-la comme vous voulez. Mais sachez que, vous le savez, il y a quelque chose de puissant dans la nature qui vous entoure. Elle est plus forte que vous. Et vous en êtes faible, aussi faible qu'une feuille au vent. Et ça, quand vous l'admettez, vous savez à ce moment-là que vous avez une faiblesse. Et cette faiblesse, elle peut être bien et elle peut être mal. La foi vous donne de posséder ce que vous ne voyez pas. C'est ce qui est invisible. Ça vous permet d'espérer, ça vous permet de donner le don de vous-même, ça vous permet de faire de belles choses et d'accomplir de très belles choses. Et ça, c'est l'homme bio, depuis la nuit des temps. Toutes les ethnies, tous les petits peuples, les plus reculés, sans être progressistes, sans être modernes, sont, avec une foi profonde, des éléments qui les entourent, avec le plus grand naturel possible. Et ils savent qui peuvent être habités d'actes bonnes et d'actes mauvaises. Donc, nous n'avons pas eu besoin obligatoirement du modernisme pour comprendre la vie du bien et du mal. Pensez-vous dans la foi, l'espérance, la charité ? Est-ce que l'esprit humain est capable de tout cela longtemps, pour l'éternité ? On ne peut avoir du don. Et on ne peut pas non plus tuer ce qui est la vie, la vigueur, quand on est enfant. par exemple, l'esprit ne peut pas être meurtrier, ce n'est pas possible. Je ne sais pas quelle est la responsabilité de personnes qui sont capables de faire le mal comme Michel Fourneret, mais il eut dans sa vie un drame, un mensonge qui l'a emporté. Et à la fin, c'est le diabolisme qui l'a emporté. Quelles circonstances atténuantes, on ne sait pas. Mais espérons pour lui qu'il y aura un purgatoire. Satan est incapable d'aimer. Il accuse, il soupçonne, il détruit, il ment, il trompe, il pervertit. Il insinue dans le cœur pour y propager la jalousie, le mensonge, les désirs de meurtre, de guerre. Il se déguise souvent et fait passer le mal pour le bien. Cette réalité spirituelle devient un parasite très envahissant et puissant qui prolifère et exerce son emprise dans le monde matériel dès lors qu'on lui donne accès ou, pire, qu'on l'appelle. De lui-même, il a la possibilité de venir rôder, travailler dans le monde, mais aussi dans les personnes, dans leur corps et dans leur réalité psychique, leur imaginaire ou leur inconscient. C'est sans doute cela que le père Hamel a pressenti chez ce jeune. Une force mauvaise à l'œuvre, dominant largement la personnalité d'un jeune homme. Peu importe de quelle confession, on n'a pas besoin d'avoir une confession, le mal est partout. L'ignorer ou en rire, très difficile. Dialoguer avec Satan, une créature très intelligente qui a de fortes chances de l'emporter, surtout si on accrédite sa présence. Les pères du désert affirmaient que pour résister efficacement aux sollicitations de l'esprit mauvais, il faut connaître sa manière de faire. Le Satan suggère, ouvre le dialogue, espère une connivence secrète, attend des réponses, un consentement qui, lorsqu'il est acquis, se tourne en une véritable obsession. Il ne faut donc surtout pas parler à l'esprit du mal directement. Il ne faut pas le penser aussi puissant que Dieu, ou d'une entité remarquable, ou de la force de la nature, comme vous voulez. Il ne faut ni chercher de relation avec lui, ni lui donner de l'importance. Il faut en rire. Il faut rire face au mal. Il y a des Acadiens, je crois, au Canada, quand ils se sont fait attaquer, eh bien, ils n'avaient pas d'armes. La seule arme qu'ils ont eue, c'était de rire. Et ils ont ri face à la mort et face à ce qui les attendait, face au mal. Ils ont eu la force de rire. Ils ont préféré rire de lui. Il faut aussi débusquer toutes les mauvaises pensées qui nous traversent et lutter contre elles. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Tous ont donné comme remède efficace une confiance, une prière incessante, une dérision, comme ces rires des Acadiens, face au mal. Nous allons continuer ce petit passage intéressant, mais d'abord encore une petite pause avec Seori, Full Moon.
Close my eyes and I see you. I feel my heart beating for you. You take my breath away. Whenever you hold me close, I realized I can't. Started to change when you appear in my darkness, looking at the silvery light. It was always you, and I'm drowned to you, my moon. We'll take 10 more steps towards you when you move back. There's no reason it's needed for me. Even though it's too far.
Full Moon, toujours une petite découverte coréenne assez sympathique. Alors, vous êtes toujours en compagnie de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire et je poursuis donc mes tribulations diaboliques, n'est-ce pas ? Et là, je vais vous faire part pour les deux derniers mois d'une revue qui s'appelait la Revue des Deux Mondes. Et c'est la partie du tome 31e. Quatrième série de Paris au bureau de la Revue des Mondes, rue des Beaux-Arts dans le 10e, édition de 1842. Et c'est donc le diable, évidemment, qu'ils abordent dans cette Revue des Deux Mondes, et sa vie, ses mœurs, son intervention dans les choses humaines. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Sa vie et son intervention dans les choses humaines. Quel est donc cet esprit de ténèbres, homme, serpent ou dragon, qui plane à tous les horizons du passé ? Dans le ciel, il blasphème et se bat avec les anges. Sur la terre, il se sert de l'homme comme d'un cheval qu'il pique et monte à sa volonté. Il l'afflige, le tourmente, l'excite au péché et dans l'abîme, il le punit d'avoir péché. Il habite les carrefours tortueux des villes sombres du Moyen-Âge et se perche comme les hiboux sur les toits aigus des couvents, se glisse la nuit dans les cellules des nonnes et va voler pour les magiciens des hosties dans les calices, des os dans les cercueils. Les saints en ont peur, Dieu s'en défie. Le grimoire enseigne comment on l'évoque, le rituel comment on le chasse. L'Église le maudit, la sorcellerie l'adore. Cet esprit de ténèbres, c'est le démon de la théologie, le diable du conte monacal et de la tradition populaire. Le Moyen-Âge avait trop peur du diable pour en parler raisonnablement. Pour nous qui ne nous sommes ni obsédés ni possédés, et c'est sans doute, hélas, le seul avantage que nous ayons sur les moines et sur les saints, nous trouverons peut-être quelques intérêts à faire apparaître Satan, non pour lui demander, comme les sorciers, le bonheur, la science, l'amour sans inquiétude et sans larmes, tout ce que l'homme poursuit sans l'atteindre, mais simplement pour lui prier de nous conter son histoire, histoire multiple et difficile, qui remonte à la source, même des jours, sombre biographie d'un fantôme qu'il faut reconstituer d'après des rêves. Il s'agit d'une biographie éclaircissant d'abord le mystère de ses origines. L'écriture, qui parle souvent du diable, ne dit pas quand et pourquoi l'auteur des choses l'a tiré du néant. Dieu ou ne serait-ce qui, Le nomme et le maudit par la voix de ses prophètes, se tait sur son âge. Mais quand est-ce qu'il se tait ? L'homme veut deviner encore. Au premier siècle de l'Église manichéen, Bardesane, s'inspirant des traditions du dualisme, élève le diable jusqu'à l'idée de cause et il en fait une sorte d'être en soi qu'il oppose au principe du bien. Priscillien le fait naître du chaos et des ténèbres. Tatien, lui, d'un rayon de la matière et de la méchanceté. Dans la Judée au temps des saints Jérôme, les uns lui donnent pour père Léviathan, le grand dragon de la mer. Les autres des chefs des anges qui s'unissent avec des filles des hommes avant le déluge. Selon saint Augustin, on aurait créé les bons et les mauvais esprits comme un poète qui, pour relever les beautés de son œuvre, y sème les antithèses cependant si grandes que soit l'autorité d'un évêque d'Hippone, sa pénétration dans ce qui touche les mystères, il est peu probable que l'éternel artiste qui a fait ce monde y est introduit le mal par une fantaisie de rhéteur ? Non. Selon la tradition dogmatique, Satan et ses anges, innocents et purs dans l'origine, appartenaient à cette classe d'intelligence supérieure qui était comme les prémices de la création. Ils habitaient les régions de la lumière et de la sérénité. Ainsi, ils étaient initiés au secret de la sagesse, mais ils ne tardèrent point à déchoir de leur rang, suprême en cédant aux inspirations d'une volonté mauvaise. Par l'orgueil, ils tombèrent dans l'orgueil, la concupiscence, par l'orgueil en cherchant à s'élever d'eux-mêmes, et sans le secours de la grâce à l'éternelle béatitude, en disputant à l'Éternel la souveraine puissance, en lui refusant comme des vassaux révoltés l'acte de foi et d'hommage, ils tombèrent par la concupiscence en demandant aux filles des hommes des caresses, des voluptés que de purs esprits ne doivent pas connaître. Mais l'Éternel a dû punir, les bannir de leur présence en les maudissant, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, comme le dit certaines personnes écrites à l'ancien temps. Le diable ainsi que l'homme n'est donc qu'une créature déchue. À dater de cette chute, il commence sur la terre comme une vie nouvelle et désolée. Et dans le séjour de son éternel exil, il s'enveloppe de tant d'ombres, de mystères, que malgré ses fréquentes apparitions et les nombreux témoignages de ceux qui l'ont vu, il est presque impossible de donner de sa personne un signalement exact. Est-ce une intelligence servie par des organes ? Est-ce un corps ou un esprit ? Oh, ce n'est pas un esprit, car suivant la définition de l'école, un esprit, c'est ce que l'œil ne peut voir, ce que l'oreille ne peut entendre. Or, on voit le diable, on l'entend et il parle. Ce n'est pas un corps, car on ne peut pas le saisir sous une forme tangible, et il franchit les distances avec la rapidité de la pensée. C'est un être indéfinissable et pour ainsi dire impersonnel. C'est le Protée antique dans ses métamorphoses les plus étranges. Au jour voisin du paganisme, sur la limite indécise du monde moderne et du vieux monde, il s'habille de la défroque de l'Olympe. Il emprunte aux animaux fabuleux de la mythologie, aux dragons, à l'hippocentaure, leurs formes fantastiques, aux faunes et aux sylvains, leurs pieds de bouc et leur lascive ardeur. Comme ce génie gourmand qui sortait du tombeau d'Anchise, pour goûter les viandes, il aime à flairer le sang des victimes, à lécher les chairs des sacrifices. Il reste ainsi pendant longtemps une sorte de fantôme à demi païen, son corps formé des vapeurs qui montent de la terre ou des parties les plus grossières de la substance éthérée, n'est qu'un simulacre impalpable qui rappelle la seconde enveloppe de la philosophie antique, simulacre subtil comme les nuages sur lesquels cependant la flèche et l'épée produisent une impression douloureuse qui laisse en se consumant par le feu des cendres pareilles à celles de l'homme. N'oubliez pas que l'homme est poussière, retourne à la poussière. C'est un spectre, ce n'est pas encore un monstre. Mais à travers le Moyen-Âge, la superstition elle-même se dégrade, le diable se matérialise et dans ses innombrables métaphores, morphose, il parcourt l'échelle entière de la création. Un homme informe et inachevé, nain ou géant, ridé, velu, aveugle comme les taupes, noir comme les forgerons, barbouillé de suie. Il a des griffes comme les tigres, les crocs comme les sangliers. Il se change au gré de ses caprices en ours, en crapaud, en corbeau, en hibou, en serpent. Car il aime cette forme qui lui rappelle sa première victoire et ce qui n'est pas moins bizarre, en queue de veau. Quelquefois aussi, à en croire les démonographes, Psellus, il se montre couvert d'écailles comme les poissons et il respire comme eux, en absorbant l'air par ses écailles. Mon Dieu, que d'histoires, que de monstruosités, que de folles histoires dignes de fantaisie. Lorsqu'il veut induire au péché les prêtres et les moines, il emprunte à la femme les séductions de sa grâce, ce teint luisant et vermeil, ses doigts effilés, qui charmait les chevaliers, cette cambrure des reins que la Bible a maudit parce qu'elle est fatale à l'homme. C'est sur ces belles paroles que je vais vous quitter et que nous nous retrouverons pour le dernier mois de l'année, en finissant avec cette revue des deux mondes sur le diable, et nous allons terminer avec D-Ho, I'm Gonna Love You.
So foolish, 너의 웃는 모습 때문에 최선을 다해 for you.
아침이면 커피 한 잔 마시듯이 해가 뜨면 서쪽을 향해지듯이 너무 당연해 널 사랑하는 게 Yeah, I'm gonna love you. 숨 쉬는 것처럼 I'm gonna love.
I just can't control. I almost just
can't control.